L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Audionaturalisme, field recording, acoustémologie, écologie sonore, l'ouïe s'entend comme un sens privilégié pour aborder le paysage. Mais toutes les démarches qui entendent justement privilégier l'écoute de la nature sont-elles aussi écologiques les unes que les autres? Les chasseurs de sons ne seraient-ils, comme tout chasseur, protecteurs que de certaines espèces du vivant? Sans doute y a-t-il l'indice de quelque chose dans le fait que le premier humain à avoir enregistré un oiseau en 1889, Ludwig Koch, a passé une grande partie de sa vie à enregistrer les animaux en se taisant pour ne laisser aucune trace de sa présence sur ces enregistrements. En héritier de Koch, bien des audionaturalistes font encore attention à s'auto-effacer, est-ce à dire que leurs captations n'en sont que mieux des captures? Quelle logique extractiviste peuvent bien traverser les enregistrements de terrain et leurs prétentions écologiques sont-elles si justifiées que ça? Pour en parler, c'était la Bibliothèque publique d'information que nous recevons Roberto Barbanti qui publie Les sonorités du monde aux presses du réel et Pauline Nadrini qui signe Sonder le monde aux éditions MF. C'était extrait de l'album La Rose des Vents de Pierre Marietan. Pierre Marietan qui nous a quittés il y a quelques mois et avec qui vous avez cofondé, Roberto Barbanti, la revue Sonorité. Et quand vous avez fondé cette revue, l'appeler Sonorité, pour vous, c'était clairement une alternative à une revue qui serait appelée Lumière?
Oui.
C'est-à-dire pour, c'est pour sortir du paradigme des Lumières qu'il s'agit d'ouvrir celui des Sonorités.
Non, il ne s'agit pas de sortir du paradigme de Lumière. Il s'agit de compléter le paradigme de Lumière. Il s'agit donc de sortir d'une vision du monde, d'une Weltanschauung, qui exclut toute autre approche sensible au monde. Ça, c'est le but de cette idée de, disons, d'une ère de sonorité après l'ère de l'époque de Lumière, l'époque de sonorité. Effectivement, l'idée qu'on avait au départ, quand, avec Pierre Marietan, nous avons fondé cette revue, c'était de donner force, de donner un outil, un lieu de réflexion sur la question de l'écoute, d'une autre approche du monde, de la réalité, à partir de cette capacité à écouter, de se, non pas focaliser, parce que le terme focaliser renvoie justement à un langage rétinien, oui, mais de s'ouvrir à cet univers du son et de l'écoute pour pouvoir ainsi analyser, disons, pour aller vite, le monde.
Parce que là, on a une espèce de paradoxe philosophique quand même, c'est-à-dire qu'il s'agit de sortir quand même du rétinien, presque de s'amputer de la vue pour pouvoir mieux entendre et, ce faisant, embrasser plus largement le monde.
Alors, il ne s'agit pas de penser...
De vraiment fermer les yeux.
Non, il s'agit aussi de fermer les yeux. Évidemment, comme ça a été répété par beaucoup de théoriciens, et de philosophes et de musiciens, le sensorium, les sensibles, c'est une dimension pour les sensoriels, c'est une évidence, on ne peut pas penser en termes de séparation. Il ne faut pas penser en termes de séparation. Mais nous savons malheureusement que certaines personnes, par exemple, n'ont pas certaines fonctions sensorielles. Et donc, ils ont une approche du réel qui privilégie certaines relations au monde. J'ai beaucoup travaillé avec la revue Sonorité. On a beaucoup travaillé avec une dame, Oel Corvest, qui est non-voyante, qui était la directrice de l'accessibilité à la Cité des Sciences de la Villette. Dans le cas d'Oel Corvest, c'est évident que le monde passait essentiellement par les oreilles.
Dans les sonorités du monde, donc vous regroupez un certain nombre d'articles que vous avez publiés depuis 2006, depuis la fondation de cette revue Sonorité, et quand même, vous insistez pour sortir du vocabulaire rétinien, par exemple de la théorie, pour lui préférer le mot acousia, ou même vous voulez parler d'acousiologie, c'est-à-dire qu'il y a quand même à cet endroit-là, par l'écoute, un endroit du savoir qui serait encore insoupçonné, qu'il faudrait défricher.
Tout à fait. Je pense que... Alors, c'est une immense question. Hein. Donc, je vais être extrêmement, concis et donc, forcément, il ne faut pas me prendre au pied de la lettre. Mais je pense que la civilisation occidentale est une civilisation du rétinien, de l'œil. Et je pense que la dimension esthétique a été en quelque sorte canalisée, disons, et c'est un agencement historique qui s'est petit à petit construit autour de l'œil, autour de la vision. Et l'esthétique, je crois que aussi l'esthétique a été en quelque sorte forgée par cette orientation globale de la société. Donc il y a au départ, chez Platon et Aristote, il y a les éléments intelligibles et les éléments sensibles, les aristeta et les noeta. Et j'ai l'impression que tout le développement de la question esthétique a été en sorte la volonté de ramener les aristeta sous les noeta. C'est-à-dire quand par exemple Baumgartner va écrire son texte au milieu du XVIIIe siècle sur l'esthétique, il essaye de théoriser les sensibles. Autrement dit, ramener les sensibles à la vision, à ce que au théorein, c'est-à-dire la capacité de voir.
Et donc là, vous soupçonnez une réduction qu'il va falloir résoudre par les oreilles.
Oui, pense qu'il y a eu une dans notre culture. Après, une culture, c'est très complexe. Donc là, je suis en train de trancher vraiment d'une façon pas très scientifique. Mais disons que dans notre culture, effectivement, les oreilles ont été en quelque sorte secondarisées par rapport à... Et c'est là, on le voit dans le langage, mais on le voit bien au-delà du langage et puis dans l'importance que certaines discipline au secteur de sociaux ou
Mais même le mot idée, par exemple, il est plus idée, représenté comme absolument. Une image mentale que
Idea
comme un
son. Idea et idos, ouais. c'est exactement ça, oui. Mais si vous permettez, il y a aussi la question scientifique. L'épistémologie occidentale, c'est une épistémologie de l'observation, mais de l'observation visuelle, du théoros, celui qui est au spectacle, qui est un spectateur, qui regarde donc...
qui est dans un vis-à-vis.
Et qui est en vis-à-vis et qui pose à distance l'objet, et qui le pose devant soi. Et de là vient toute la question, peut-être, heideggerienne du Gestell, de poser devant soi un objet, de le regarder, de l'observer. Et je crois que si nous avons... une expérience différente du réel, c'est-à-dire si on l'écoute vraiment, on a aussi une autre façon d'agencer un savoir fondé.
Parmi les auteurs qui sont communs à vos deux livres, Roberto Barbanti et Pauline Nadrini, il y a Steven Feld qui précisément va mettre en circulation une appellation et même une discipline, on peut dire, qui est l'acoustémologie. Ce serait quoi alors, Pauline Nadrini, l'acoustémologie? C'est-à-dire, ce serait une épistémologie qui justement serait dédiée à prendre le monde par l'oreille?
Alors, en un sens oui, en un autre peut-être non, au sens où quand Feld forge ce néologisme dans les années 80-90, c'est aussi à la base de travaux d'ethnographie sonore sur des sociétés de Papouasie Nouvelle-Guinée, et il essaie de mettre en évidence un rapport au monde et à l'environnement, au langage, à la catégorisation du monde, des objets, de l'environnement qui passe par l'ouïe. Et à partir de là, de penser que il s'agit de penser que pour comprendre ces sociétés, un autre biais sensoriel ou un autre canal sensoriel est nécessaire et qu'il faut fonder une épistémologie différente qui se fonde aussi sur une sensorialité différente qui est celle de l'audition. Et donc c'est vraiment Roberto disait qu'effectivement la science occidentale est théorico-visio-centrée. Il s'agit de produire une épistémologie alternative qui prendrait acte de ce déplacement sensoriel, d'où ce néologisme d'une épistémologie acoustique ou d'une acoustique épistémologique, sais pas, mais qui prendrait acte de ce déplacement-là. Après, la question, c'est est-ce qu'elle est universalisable et est-ce qu'on ne va pas projeter dans cette discipline nouvelle des biais qui seraient ceux de la théorie visio-centrée, qui serait la question de l'intentionnalité, de la mise à distance. Qu'est-ce que ça veut dire de prendre ça vraiment au sérieux ? Parce que c'est jamais une simple transposition. L'ouïe, ça change des choses en profondeur. Et est-ce que le concept même d'épistémologie va toujours être adapté à ce qu'on y trouve ? C'est une question qu'on peut se poser.
C'est-à-dire qu'il risque de ne pas ressortir dans le même état ?
Non.
Oui, c'est ça. Parce que cette idée, souvent assez idéalisante quand même, de l'oreille n'a pas de paupières, je dis volontiers qu'elle est idéalisante parce que vous dites bien, Pauline Nadrini, qu'il y a une conception naturaliste de l'audition qui est mise en circulation et en discussion par Jonathan Stern, qui pointe que ça va commencer avec les instruments d'écoute médiate, avec d'abord, il analyse beaucoup le stéthoscope de Stern, évidemment l'enregistrement phonographique, et on a l'impression qu'on n'a jamais été aussi titillé de l'oreille que depuis qu'on met un casque, enfin depuis qu'on l'équipe.
Il y a un paradoxe qui fait que toutes ces médiations de l'écoute, qui ne sont pas simplement contemporaines, hein, puisque Stern et puis avant lui Michel Foucault avaient analysé ce qu'on appelle les dispositifs d'auscultation médiane ou médiale, avec l'invention du stéthoscope notamment, tous ces instruments mettent en exergue les pouvoirs de l'oreille, pouvoirs à la fois de sensible, mais aussi pouvoir de discrimination, pouvoir critique, pouvoir de repérage des lésions internes, des symptômes. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette auscultation ? Est-ce qu'elle a pour but une connaissance ? Est-ce qu'elle a pour but de sonder pour repérer une lésion, un problème, pour viser quelque chose, une structure dans une société, un type de croyance, je pense à des sociétés traditionnelles où notre manière d'écouter va révéler des manières d'être au monde, ou est-ce que ce qu'on vise, c'est une expérience proprement esthétique qui pourrait être abstraite d'un enjeu de connaissance, parce que c'est aussi, y a aussi un usage purement esthésique et esthétique de ces instruments de médiation, le casque par exemple, qui peut être un bon exemple. Donc la question, c'est au fond, est-ce qu'il s'agit d'utiliser ces instruments, et ça peut être parfaitement légitime dans certains champs de la connaissance et de la pratique, pour au fond mieux comprendre le monde, mieux le catégoriser, comprendre comment il fonctionne, ses structures, ou est-ce qu'il y a un autre usage peut-être plus esthésique de ces médiations?
Je vous propose d'écouter les premières mesures du quatrième quatuor de Chelsea par le quatuor Arditi. Vous citez, Pauline Nadrini, Makis Solomos, le musicologue qui, à propos de ce quatuor, écrit « Être dans le son, s'immerger dans le son, être enveloppé par le son, voyager au cœur du son, s'enfoncer dans l'abîme du son, etc. deviennent alors les nouvelles métaphores pouvant inspirer tant les compositeurs que les auditeurs. »
Thank you.
Roberto Barbanti, vous faites un peu la liste d'un certain nombre de courants artistiques du XXe siècle, le situationnisme, le happening, la performance, Fluxus, le body art, qui sont autant de tentatives de sortie justement d'un rapport représentationnel à ce qu'on appelle l'art. Donc ça illustrerait ce basculement vers une esthétique qui est en immersion avec ce qu'elle ressent.
Absolument. Le XXe siècle, c'est une... du point de vue des mouvements artistiques, tout aussi bien dans les arts visuels que dans les arts du son, il y a cette volonté de sortir du cadre, en quelque sorte, qui est une volonté explicite. On ne peut pas contester cela du point de vue historique. Et pourquoi sortir du cadre ? Parce que les cadres étaient devenus, c'est-à-dire les contextes historiques, la dimension globale qui au XVIIIe et avant, au fond, c'était institué comme quelque chose qui avait institué l'art comme quelque chose de séparé. Et notamment la musique qui était séparée, qu'il fallait écouter dans des lieux. Et il y avait aussi des raisons historiques. Mon professeur d'informatique musicale au Conservatoire de Florence disait qu'il attendait le samedi. Dans sa jeunesse, il attendait le samedi, parce que le samedi, il avait les concerts au théâtre, et donc il pouvait écouter de la musique, de la vraie musique. Ouais. Autrement, on écoutait une musique, grésillante, bruyante, enfin, plein de bruit dans des postes des radios ou de tourne-disques qui étaient de mauvaise qualité. Hein.
Alors, parce que cette critique du grésillement, elle est bien la preuve que dans notre rapport à la technologie sonore ou de reproduction sonore, on attend une sorte de transparence qui pourtant serait par définition impossible, puisque c'est quand même un échantillonnage que ça nous donne à faire. Et vous dites, je voudrais évoquer l'exemple du happening. Je suis convaincu que cette forme expressive de la fin des années 50 est fondamentalement orientée par une nouvelle conception et perception de la temporalité que le magnétophone avec le disque et le poste de radio transistor avait apporté. Donc c'est-à-dire que c'est comme par le levier de ces écoutes médiales du son qu'on en vient en quelque sorte à vouloir abolir cette médialité.
Oui, alors je ne sais pas comment, la façon dont vous posez la question...
J'ai l'impression que la préoccupation orale A-U-R-A-L-E, elle est comme excitée par tout ce qui pourtant essaye de nous en déposséder, qui est tous les moyens d'enregistrement, d'extraction du son.
C'est certain que les technologies nous donnent une orientation la technologie n'est pas neutre. Et la technologie nous permet aussi d'avoir d'autres points d'écoute ou d'autres points de vue ou d'autres, c'est-à-dire qu'il y a un enrichissement. Après, il faut voir comment cet enrichissement s'opère et comment il agit. Aussi concrètement, mais je pense que le contexte historique et l'arrivée des technologies d'enregistrement, les mémoires exosomatiques sonores, ont apporté vraiment un changement radical, fondamental dans l'histoire de l'humanité, non seulement par rapport à l'écoute, mais par rapport vraiment à la dimension polysensorielle, à la réalité culturelle historique.
Oui, parce que ça marche aussi pour la photographie. Vous citez Benjamin Polignadrini qui dit dans l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique que l'agrandissement n'a pas seulement pour tâche de clarifier ce que l'on voit de toute façon confusément, mais plutôt de mettre au jour des formes structurelles de la matière parfaitement inédite. C'est-à-dire que dès lors, par la photographie, on voit, comme par la microphonie, on entend autre chose qu'à oreille ou à œil nu.
Oui, et c'est un constat que faisait un des pères de la réflexion sur l'enregistrement avec Benjamin, qui est Pierre Schaeffer, le fondateur de la musique concrète. Lui, il a parfaitement vu le caractère révélateur de l'enregistrement. sonore, de même que Benjamin avait parfaitement compris le caractère révélateur de l'enregistrement qu'est la photographie. Schaeffer, lui, avait cette image de dire qu'au fond, l'enregistrement acoustique, c'était une façon de... On reprend une métaphore visuelle pour le coup. C'était comme pointer vers le ciel un tube de carton et que isoler ainsi une portion du ciel nous permet de mieux voir les étoiles. Et c'est l'idée aussi voilà, de cette révélation. Alors, Benjamin parle d'un inconscient optique, on pourrait presque parler d'un inconscient acoustique. Pour Schaeffer, il est très lié à la question de la forme sonore, de la typomorphologie du son. L'enjeu, c'est grâce à l'enregistrement de révéler toutes les caractéristiques timbrales, toute la richesse timbrale du son et de créer un nouveau solfège, une nouvelle musique plus générale que la musique qui se limitait à un certain nombre de paramètres, l'intensité, surtout la hauteur et la temporalité, le rythme des sons. Et ce projet-là, c'était en un sens une façon de prendre acte de cet apport sensoriel et formel aussi qu'apportait l'enregistrement. Après, on peut se demander s'il n'y a pas aussi dans cet acte-là une façon un peu paradoxale de couper l'enregistrement de ce dont il est l'enregistrement et de faire de cet objet sonore, puisque c'est le terme consacré chez Pierre Schaeffer, d'en faire une sorte de fétiche idéalisé, paradoxalement, alors qu'on parle de musique concrète et que l'enregistrement c'est très concret, d'en faire une sorte de nouvel objet de l'écoute qui est paradoxalement très coupé de ce dont il est la trace. Mmh. Donc c'est à la fois un geste libérateur et extrêmement riche pour toute l'histoire musicale du XXe siècle, puisque tous les compositeurs sont passés au studio d'essai, même s'ils sont souvent ressortis assez vite du studio d'essai, mais ils y sont passés, mais si on y est passé, Stockhausen y est passé. Boulez y est passé. Ouais. Mais au fond, cette démarche, elle est aussi très paradoxale. Parce que écouter ainsi, comme on avec cette espèce de fascination morphologique pour le timbre, pour la structure interne du phénomène sonore, que permet cet aplatissement de l'enregistrement et ce cadrage, qui est d'abord le cadrage de la monophonie aussi chez Pierre Schaeffer, c'est aussi un geste très abstrait. Ouais. Sur le son.
Oui, c'est le remettre en position d'être contemplé, justement, dans le vis-à-vis dont parlait Roberto tout à l'heure. J'ouvrais l'émission en évoquant Ludwig Koch, qui est le premier humain qui, à l'âge de 8 ans, parce qu'il était né en 1881,
oui,
en 1889, arrive à mettre un phonographe près d'une cage à oiseaux et donc à faire le premier enregistrement d'un oiseau, puis en effet passe sa vie ensuite à enregistrer des oiseaux, mais tout en toujours disant qu'il ne faut pas qu'on entende l'humain en train de l'enregistrer. Alors ça, vous l'analysez à travers les travaux de Mark Peter Wright, qui fait en quelque sorte une critique de l'auto-effacement des field recorders.
C'est un personnage passionnant, Koch. Alors le livre de Mark Peter Wright, Listening After Nature, qui n'est pas encore traduit en français, c'est vraiment un livre passionnant. C'est un livre aussi très critique sur le field recording, l'audio naturaliste. Parfois, je trouve trop critique d'ailleurs. Enfin, y a une façon vraiment de solder tout l'apport parfois de tous ces courants. Mais c'est aussi des critiques qu'il faut entendre et qui sont, je pense, très, très intéressantes et pertinentes. Mais d'abord, pour en revenir à Ludwig Koch ou Koch, c'est vraiment un personnage très intéressant. À 8 ans, en fait, c'est un garçon d'une famille bourgeoise allemande. Ses parents fréquentent des compositeurs. Liszt vient à la maison pour jouer du piano. Donc, il y a vraiment toute une atmosphère intellectuelle, musicale. Et lui, on lui offre un petit phonographe d'Edison. Cadeau super à 8 ans, j'imagine. Donc, il enregistre tout ce qu'il peut, les conversations, les concerts familiaux. Il paraît qu'il se mettait sous le piano quand Liszt jouait. Donc, il y a aussi tout ça. Et il va être fasciné par un merveilleux chanteur qui est un oiseau chama à croupion blanc. Et d'ailleurs, c'est marrant de dire il y a Liszt d'un côté, le virtuose du piano, et de l'autre côté, il y a le virtuose de la nature qui est le chama à croupion blanc. Et c'est cet oiseau en cage dans sa petite ménagerie que le petit garçon va enregistrer. Donc, le fait d'abord que l'oiseau soit en cage n'est pas du tout anodin, puisque les premiers enregistrements de chants d'oiseaux et d'êtres vivants non humains, ce sont des spécimens en cage. Il y aurait aussi des choses à dire du côté de l'ethnographie sonore, où les premiers enregistrements d'ethnographie sonore, ça se joue dans des réserves et donc dans un contexte très particulier culturellement.
Ouais.
Donc il y a cette image-là de la cage qui vient redoubler en un sens la mise en boîte ou en cage de l'enregistrement lui-même. Et il y a cet effacement.
Et d'ailleurs, lui va reprendre la rhétorique des chasseurs de son, justement.
Oui, oui. Et cet effacement, c'est ce que Peter Wright appelle l'effacement de... Alors, il appelle ça le noisy non-self. de ce non-soi bruissant qui est toujours là, puisque quand j'écoute, je suis aussi sonore. Là, je suis en train de parler, mais il y a le bruissement de mes mains quand je fais des gestes, il y a le craquement de la table si je m'appuie trop, et que toutes ces sonorités dites parasites, elles signent aussi la présence de l'enregistrant dans l'enregistrement. Mmh. Et c'est quelque chose qu'il ne faut peut-être pas totalement passer sous silence.
Mais ce que vous faites dans Sonder le Monde, c'est de aussi montrer comme ça crée une ligne de fracture chez ce qu'on appelle les field recorders, parce qu'il y en a qui ne font pas ça comme ça du tout. Mmh. Par exemple, un Bernie Krause, il va à fond du côté de cet auto-effacement, là où Knut Victor va à fond dans plutôt, quand il tend un micro au hibou, faire entendre que ce qu'il va écouter, c'est la réponse du hibou au micro.
En fait, l'idée, c'est pas de dire qui fait bien, qui fait mal. Krause, au fond, il a un agenda qui est extrêmement important et dont il faut reconnaître la très grande utilité. C'est de documenter un certain état de l'environnement sonore, son évolution et son évolution inquiétante. C'est un lanceur d'alerte sur l'extinction d'espèces entières qui ne pouvaient être repérées que par le son.
Oui.
On n'aurait jamais compris sans cette écoute de l'environnement sonore et sans tout ce travail fait par Krause. Et pour ça, si vous êtes dans l'idée qu'il faut se faire entendre, non, la furtivité, c'est quelque chose d'important pour le naturaliste, pour l'éco-acousticien, et ça ne doit pas du tout être pris comme quelque chose de forcément négatif. Donc, loin de moi l'idée de dire que ce que fait Krause est nécessairement problématique. C'est là où je dirais que Mark Peter Wright va un petit peu trop loin. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que dans une toute autre démarche, une démarche artistique aussi, et qui est aussi une démarche éthique, parce que ça fait réfléchir à notre action sur l'environnement, peut-être d'une manière plus fondamentale. Ce que fait Knut Victor, c'est de dire « Quand je vais dans le pays, je le cite, je dérange toujours. » Et quelque part, et si mon enregistrement prenait acte de ce qui est dérangé, de ce dérangement,
et devenait la documentation
et
de ce dérangement.
Et devenait aussi une documentation de cela, et c'est peut-être pas totalement étranger à la question de l'extinction. Et il y a ici une réciprocité. C'est pas l'objet de Krause, c'est l'objet de Knut Victor, ils sont différemment placés, je crois.
Alors, du côté plutôt Knut Victor, on va écouter l'extrait d'un album de David Michael qui date de 2016, qui s'intitule, je vais le dire en français, « Les microphones ne sont pas des oreilles ». Et c'est une pièce qui s'appelle « Ils veulent être mangés ».
Let me know when you're ready.
I'm ready.
Are we all ready?
Yeah, it looks like.
Okay. I'm eating all the bugs tonight.
Pardon?
I'm eating the bugs tonight.
Really?
Mm, tasty.
And then?
Hmm?
Don't eat them then.
They want to be eaten.
Il y a une part de provocation dans cet enregistrement, Pauline Landrini.
Oui, parce que c'est tous les bruits parasites qu'on aurait tendance à enlever, les frottements contre la bonnette, les voix off, toutes ces choses-là qui deviennent aussi bien l'objet de l'écoute. Ouais. Et il y a ce commentaire à un moment où il dit « les insectes sont partout, dès qu'on ouvre la bouche, on va en manger », parce qu'ils volaient tout autour de nous. Mais peut-être « they want to be eaten », peut-être qu'ils veulent être mangés.
Ouais.
Et c'est Mark Peter Wright, c'est Mark Peter Wright qui commente cet enregistrement et qui dit ça livre quelque chose peut-être de très juste sur l'acte d'enregistrement, qui prétend au fond ne pas déranger parce qu'on ne prélève pas réellement. Mais est-ce qu'au fond on ne prélève pas toujours quelque chose, au sens où on intervient quelque part et que notre présence dans un milieu, elle n'est jamais neutre.
Oui.
Et même s'il n'y a pas d'extraction, au sens où l'entomologiste capturerait le papillon et le fixerait sur sa planche avec une épingle. Il y a tout cet imaginaire qui est toujours présent et peut-être dont il faut interroger le sens.
Roberto Barbanti, c'est vrai que quand on parle de tout ça, il y a toujours une axiologie qui traîne, qui circule, qui chatouille, vous dites même, Pauline Adrigny, qui consiste à laisser penser, c'est un peu peut-être l'héritage de quelqu'un qu'on n'a pas encore nommé, qui est Murray Schafer, qui a l'air de dire quand même que les sons naturels sont meilleurs que les sons d'origine humaine, ce qui est évidemment quand même une affirmation discutable. Mary Thompson parle même de moralisme esthétique. Vous dites quand même, faut pas trop liquider trop vite quand même l'héritage de Murray Schafer.
Oui, je dis que... Alors... C'est une question piège.
Oui, c'est vrai. En même temps, ouvertement piège, donc ça va. Je ne cache rien.
Oui, c'est un débat qui est très important et qu'il faut vraiment aborder. Il y a eu, par exemple, cet article en 2015, je crois, de Tim Ingold, Against Soundscape, par exemple. Que c'est un article que je partage à 50% et puis 50% je ne partage pas. J'ai publié un petit texte, mais c'est en italien cette fois-ci, sur For Soundscape, not Against Soundscape. Mais Schafer, il faut se situer au niveau historique.
Absolument.
Schafer a été vraiment quelqu'un qui a créé une rupture épistémique, on pourrait dire, qui nous a vraiment permis, voilà, Conservatoire de Florence, où je fais des études de musique informatique et de musique électronique, on l'appelait comme ça, pas électroacoustique. Ces années-là, Schafer a vraiment représenté cette ouverture sur le monde. On sortait des studios d'enregistrement avec nos magnétophones portatifs et on allait enregistrer le monde. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était à la fois les résultats de la technique, parce qu'on avait finalement des nagras, des instruments qui permettaient d'enregistrer dehors, d'une façon, disons, possible pour les étudiants de conservatoire. Et puis, cette ouverture vers le monde était aussi une ouverture conceptuelle, pas simplement... Et donc là, il faut penser que dans les années 60, il y a tout le développement du paradigme, d'un nouveau paradigme épistémique qui est le paradigme biologique. Et donc toute l'attention qu'on a apportée au monde naturel, et toute la conscience aussi à cette époque, parce que c'est de ces années-là, c'est en 62, qu'on commence à se rendre compte que les oiseaux ne chantent plus, que les insectes ne sont plus présents, avec des textes fondateurs de l'écologie. Et donc, on se rend compte que le milieu est un milieu sonore, est un milieu qui subit de fortes nuisances. Et dans ce contexte-là, le travail de Schafer sur les paysages sonores, ce qu'on appelle les paysages sonores, lui, il parlait plutôt, je crois, de sonosphère. Je crois que le concept de paysage sonore, de soundscape, a été traduit par paysage sonore, mais c'est complexe là aussi. On en a beaucoup discuté. C'est complexe, mais peut-être on pourrait penser les paysages sonores comme les enregistrements, les field recordings qui présentent des œuvres, et puis la sonosphère comme vraiment la dimension référentielle, c'est-à-dire là où on est à un moment donné. Ici, on est dans une sonosphère, par exemple. Et donc, toute ce travail de Schafer a eu une importance fondamentale pour une nouvelle génération de théoriciens, d'anthropologues. Feld aussi, il en parle beaucoup. Enfin, il vient de là, il vient de cette conscience. Mais McLuhan, qui était avant Schafer, mais que Schafer connaissait, et qui donc toute la question écologique de, par exemple, Greenpeace, qui est exactement la même époque. Il y a cette, et donc évidemment, c'est une époque aussi dans laquelle il y avait beaucoup de positions qui étaient critiquables, évidemment.
Parce que ce qu'on reproche essentiellement à Murray Schafer, c'est une idée naturaliste, en fait.
On lui reproche tellement de choses.
Oui, c'est vrai.
On lui reproche énormément de choses. Et alors, pour le coup, je serais absolument d'accord avec Roberto. On a reproché énormément de choses à Schafer, à raison. Son côté New Age, mystique, c'est-à-dire mêler la conception yogique hindoue à l'art l'harmonie des sphères de Kepler, sa conception très
axiologique, que la musique du monde vaut mieux que
la
musique
pollution
humaine.
Sonore de l'anthropos des paysages anthropocéniques, oui. Même s'il n'y a pas ce terme à l'époque, oui. Contre les paysages sonores naturels. On lui a reproché sa crainte des technologies, son concept de schizophrénie. On lui a reproché le fait de calquer, soi-disant, un modèle très visuel, ouais. Du background, enfin tonalité qui note,
oui, c'est ça,
un
il remet
signal
là, ouais.
Qui correspond au visuel dans le monde sonore. On lui reproche plein de choses à Schaeffer, et c'est vrai que cette conception du soundscape, qui est d'ailleurs pas le tout hein, de tout ce qu'il a fait, on lui reproche son côté arcadien, souvent les grands paysages naturels canadiens. Bref, enfin c'est la liste est longue et on pourrait en parler très longtemps. Mais je pense qu'effectivement il faut rendre à Schaeffer ce qui est à Schaeffer. Récemment, j'avais fait un petit panel autour de cette question. Qu'est-ce que aujourd'hui des field recordistes disent de Schaeffer, doivent à Schaeffer. Et bon, sauf peut-être Francisco Lopez, qui est certainement le plus critique de tous et qui le restera, je crois, à jamais, qui était toujours assez d'ailleurs violent dans sa critique de Schaeffer. Tous reconnaissaient deux choses. Effectivement, le fait qu'il a défriché un domaine entier du monde sonore. Et deuxièmement, qui est aussi le premier à mettre l'accent sur notre responsabilité à l'égard de l'environnement acoustique.
Alors,
personne ne faisait ça avant.
De ce point de vue-là, on aurait de bons héritiers de Schaeffer en Almo Farina et Jérôme Sueur, qui font de l'éco-acoustique, c'est-à-dire véritablement une écologie par les moyens de la captation sonore.
Alors, Almo Farina, qui est un collègue et que je connais, je ne peux pas dire un ami, mais enfin, on se connaît bien. Voilà, nous sommes là dans le domaine de la biologie, de la zoologie et de la biologie. C'est-à-dire, la nouveauté de l'éco-acoustique, c'est que avec des petits micros qui coûtent 2 euros, on peut maintenant rentrer dans une forêt et avoir une captation des sons de la forêt sur des dizaines de kilomètres. Et avoir donc une vision d'ensemble. Vision d'ensemble.
Et hop.
Et cela permet, par rapport à la question de la biodiversité, d'avoir des outils qui ne sont pas invasifs, pour pouvoir comprendre des dynamiques dans le temps et dans l'espace.
Alors, ils ne sont pas invasifs, sauf qu'ils sont un peu réducteurs dans l'analyse qu'on fait des données qu'ils nous donnent.
Ils sont extrêmement réducteurs. Ouais. Et d'ailleurs, toute la question que Almo Farina avait, qu'ils ont eue, c'est de trouver des logiciels suffisamment puissants pour pouvoir identifier les espèces, pour pouvoir séparer les espèces du son du bruit de fond de la forêt, par exemple, pour pouvoir identifier certaines espèces par rapport à d'autres espèces et dans la même espèce certaines familles ou certains mêmes oiseaux. Mais c'est vrai que si on pense en termes biologiques, la possibilité de placer des petits micros dans une forêt et d'écouter ces milieux et de l'écouter 10 ans après, ça permet de voir la densité de certaines espèces ou la disparition de certaines autres espèces. Alors après Bernie Krause fait des choses que j'aime, il faut dire les choses comme elles sont, hein. J'aime beaucoup, il fait des concerts, disons, des soundscapes dans lesquels il enregistre ces forêts qui sont, voilà, c'est poétique.
Mais quand il fait ce livre chez Actes Sud, en même temps que l'exposition à la Fondation Cartier qui s'appelle « Chansons animales et cacophonie humaine », c'est quand même un peu manichéen, non ?
C'est manichéen. Bien sûr, je vois où vous voulez m'amener.
Moi, je veux en venir,
mais
oui.
Il ne faut pas opposer l'écoute outillée avec l'écoute non outillée. On sait tous ce que c'est que l'écoute outillée. Hein, et donc, tout le monde,
on la pratique quotidiennement.
On est tous d'accord, ouais. Avec, et j'aime beaucoup Knud Victor, ou tous les Lopez aussi.
Ou David Michael, donc, on a entendu.
Voilà, ouais. Absolument. La question de l'écoute non outillée, c'est que l'écoute non outillée, c'est la seule moyen égalitaire. C'est-à-dire, c'est tout le monde doté d'un appareil auditoire non déficitaire peut se retrouver dans cette situation foncièrement égalitaire. Alors que l'écoute outillée demande quand même tout un appareil, toute une dimension, toute une connaissance des ingénieurs du son, etc., ou tout simplement l'achat de... Et il ne faut pas rentrer dans cette opposition écoute outillée, écoute pas outillée, parce que On perd dans les deux cas de figure, si on perd l'un, on perd l'autre et on perd et vice-versa. Il faut vraiment rester à ces niveaux d'équivalence entre ces deux aspects et il ne faut pas les mettre en opposition. Après, c'est une question de limite.
Votre livre, il a pour sous-titre « De l'écologie sonore à l'écosophie sonore ». Alors forcément, ça donne envie de vous demander quel est l'écart entre l'écologie et l'écosophie. Un des premiers indices qu'on trouve, c'est que vous passez par Guattari, par Arne Naess, l'idée d'écologie profonde pour dire que on peut pas réduire la question écologique au biologique. Il y a aussi l'écologie sociale, l'écologie mentale.
Tout à fait. C'est ce que Guattari, en 89, après, a appelé les trois écologies et l'écosophie. Évidemment, on ne peut pas penser en termes simplement d'écologie environnementale. L'écologie, c'est vraiment la complexité, et donc la complexité à tous les niveaux. Donc les sociales, l'imaginaire aussi, donc les arts, font partie de la question écologique. Et on voit très bien comment l'écologie biologique, si vous voulez, c'est-à-dire la disparition des espèces dépend en large partie de la société, de l'imaginaire social et de comment l'imaginaire social tel qu'il nous a été légué, enfin tel que nous sommes aussi les protagonistes, tel que nous le cultivons aujourd'hui, engendre des relations conflictuelles et problématiques avec les autres espèces, les autres univers animaux ou végétaux, etc.
C'est là que la musique peut devenir un lieu de dialogue avec certaines espèces. Pauline Adrigny, vous avez récemment reçu en Sorbonne le clarinettiste David Rothenberg, qui est un clarinettiste qui va jouer avec des oiseaux assez couramment. Il raconte dans un de ses livres qu'un jour, il a été au zoo de Berlin jouer avec, je crois, des rossignols.
Il joue beaucoup avec les rossignols.
Ouais, c'est ça. Et il s'est fait plus ou moins engueuler par les ornithologues berlinois en lui disant « Vous êtes en train de déformer le chant de nos oiseaux parce que vous leur apprenez d'autres mélodies que les leurs, c'est ça ?»
Oui, alors c'est une anecdote très amusante et qui est très révélatrice aussi de tout ce dont on parle. Il est dans un parc à Berlin et il a l'habitude de venir jouer avec plusieurs personnes tous les soirs avec les rossignols. Et j'y reviendrai d'ailleurs pas avec n'importe quel rossignol, avec un certain rossignol qu'il a repéré.
Un individu.
Et ça c'est, je pense, très important pour Rothenberg, mais j'y viens tout de suite. Ouais. En attendant, pour l'anecdote, il voit sur place, je sais plus quel est le nom de cette chercheuse, enfin une chercheuse à la Freie Universität de Berlin, qui lui dit « Ah non, mais non, on ne savait pas que tu jouais avec lui, tout est fichu, tu ne te rends pas compte, ça fait des mois qu'on travaille sur ce rossignol et ce regroupement d'oiseaux, et pour essayer, parce que c'est des vocal learners, ils ont un apprentissage vocal, les rossignols, c'est partie de ces espèces dont le chant s'enrichit au contact d'autres oiseaux et d'autres espèces aussi, c'est une autre question, au cours de leur existence. Aristote en parlait déjà dans Partie des animaux. Et donc, ils étudient ça, la manière dont les chants de rossignol s'enrichissent au gré de leur rencontre et de leur vie. Ils disent, c'est fichu, là, t'as interagi avec eux, ils ont repris certainement des patterns de cet échange, donc ils sont fichus pour nous, they are ruined. Et Rothenberg dit, je suis désolé. Alors, au début, ils discutent un peu, et puis finalement, ils partent. Donc, c'est assez intéressant de voir soit cet aspect qui cherche à cadrer au maximum le vivant dans une forme de clôture à l'égard de l'humain, soit dans la démarche de Rothenberg, alors là on met les manettes totalement de l'autre côté, où il y a l'idée d'une relation interespèce, et qu'une écologie qui voudrait peut-être totalement se couper de cette relation interespèce, ou de cet entrelacement inévitable entre l'humain et l'animal, serait peut-être, se placerait mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des ornithologues aussi pour étudier conditions, on dirait, abstraites, le champ des rossignols. Le deuxième point qui m'intéresse dans ce type de démarche, au début j'étais assez suspicieuse à l'égard de tout ce que faisait Rothenberg. Je trouvais, de même que chez Bernie Krause, toute cette idée de la musique animale, du concert interespèce, de l'orchestre animal, tout ça, ça m'a toujours beaucoup dérangée parce que j'y voyais une forme de naturalisme, d'ailleurs assez réducteur pour le vivant, puisque pourquoi on irait plaquer des catégories musicales humaines sur la richesse du monde sonore animal ? J'avais une sorte de distance par rapport à ça. Et puis en écoutant David récemment, j'ai enfin compris au fond tout ce qu'il y a de passionnant dans sa démarche, c'est qu'il joue pas avec le rossignol ou les baleines, il joue avec ce rossignol, avec cette baleine à tel moment, c'est une rencontre. Et dans cette rencontre, il y a bien l'idée d'une individualité face à laquelle je me tiens, qui n'est pas un autre oiseau, qui a son propre parcours, qui a rencontré d'autres oiseaux dans telles circonstances et qui n'interagit pas avec moi de la même manière qu'un autre oiseau. Mmh. Et ce qui est passionnant dans le livre de Rothenberg, qui a donc été récemment traduit chez Actes Sud, hein, Rossignol dans la ville, c'est qu'au fond, il décrit des rencontres avec des rossignols très différents les uns des autres. Et c'est cette idée aussi qu'il faut dépasser une conception très catégorielle du vivant pour quelque chose de plus individué. Et ça, je trouve que c'est une démarche tout à fait passionnante chez lui.
Alors, des animaux qui font de la musique, on va écouter un éclat de trèfle de Robin Meyer qui fait faire du synthétiseur à des moustiques. Dans le travail de Robin Meyer pour vous, j'ai l'impression, Pauline Nadrini, c'est que précisément le fait de cette interaction, de tirer une musique d'une présence animale assez contrainte quand même, permettre d'élargir justement l'écoute.
Oui, après, c'est vrai que j'ai été assez critique envers le travail de Robin Meyer dans mon livre. Tout est parti d'une rencontre à la Philharmonie de Paris où j'avais déjà écouté son travail, mais là ça m'a vraiment marqué, où il présentait cette pièce sur les moustiques. Il immobilise des moustiques et il les enregistre, leur son si particulier, en montrant qu'il s'appuie sur des travaux d'entomologistes qui ont montré que la fréquence du vomissement des moustiques varie en fonction de leur excitation dans l'accouplement, qu'il y a l'idée d'un ajustement du moustique à son environnement et aux stimuli auxquels ils sont soumis. Et donc il en a fait un dispositif musical où on enregistre l'ajustement du moustique à des sons qu'il est supposé entendre. Donc un son de synthétiseur, qui est produit d'ailleurs par le chant du moustique, donc il y a un effet de boucle, enfin de larsène, et le son d'un chanteur de drumpad indien, avec aussi cette idée d'une sorte d'analogie morphologique entre la modulation du drumpad et la modulation du moustique. Et j'y ai vu une forme d'instrumentalisation assez dérangeante
de l'animal.
Ouais. Bon, déjà, le fait que le moustique est mis certainement dans un gros état de stress, puisqu'il est soumis à un dispositif qui est très, très limitant. Alors, tout le monde disait, bon, on s'en fout des moustiques, après tout, on passe notre temps à les exterminer tout l'été. Oui, d'accord, mais en faire de la musique, c'est peut-être autre chose. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de très étrange à projeter cette idée d'harmonisation, d'ajustement interespèces, dans un dispositif qui est totalement contrôlé, totalement gridé par
oui, mais de fait, ça leur fait meilleur, faire de la musique tempérée de façon humaine.
Alors, enfin, pas tempérée, ouais. En l'occurrence, c'est un jeu sur la question du tempérament, ouais. C'est sortir des échelles. Bon, en fait, ça réexploite aussi tout cet imaginaire qui remonte à Varèse et même à avant, quoi, de sortir du continuum, enfin, l'idée d'un continuum, voilà. Mais ce qui me dérangeait, au fond, c'était faire du synthétiseur à un moustique, bon... en quoi ça nous apprend quoi que ce soit sur l'écoute du
moustique.
Alors,
vous y trouvez quand même un point positif. Vous dites, d'abord, le moustique est un insecte, un vivant qui, dans notre écologie quotidienne, tient le rôle de nuisible. Le transformer en musicien tient dès lors du tour de magie satisfaisant qui, à la faveur d'une trêve, chatouille agréablement les catégories axiologiques par lesquelles nous classifions l'animal.
Oui, mais c'est un peu ironique en même temps.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire que ça chatouille, mais ça ne remet pas en question. C'est une trêve, précisément.
Oui.
C'est-à-dire que dès que la trêve est finie, les moustiques sont tous... Enfin, il en utilise plein pour son expérience. D'ailleurs, il se présente souvent comme une sorte d'apprenti sorcier, hein, Robin Meyer, et ça lui va assez bien. Ouais. On imagine bien tout le stock de moustiques mis à disposition par l'institut avec lequel il travaille. D'ailleurs, il travaille avec des gens qui sont des entomologistes, mais qui travaillent aussi sur les questions d'éradication des nuisibles. Hein, donc, ouais. Voilà. Et c'est une trêve, parce que ça ne nous empêchera pas d'aller... Je ne dis pas qu'il faut accepter de se faire piquer par tous les moustiques du monde, hein, mais simplement cette mise en scène d'une alliance musicale entre un moustique qui module et un chanteur de drumpad, qui d'ailleurs, quelle image ça projette d'ailleurs sur le chanteur de drumpad, il y a une forme de naturalisation de sa technique sonore qui est tout aussi problématique, je crois. Bref, enfin, c'est un dispositif qui m'avait mise extrêmement mal à l'aise, on en avait beaucoup discuté lors du colloque, c'était le colloque musique animale qui avait eu lieu à la Philharmonie de Paris, et c'était une pièce qui avait fait beaucoup réagir. Alors voilà, forcément, la première action c'était, mais on... Après tout, vous-même, vous tuez les moustiques, qu'est-ce qu'on s'en fiche? On a toujours fait de la musique avec les animaux, les boyaux de moutons sur les violons, etc. C'est quelque chose qui est très, très ancien. Mais là, ce qui m'embêtait, c'était que c'était sous couvert d'une forme d'appel au concert interespèces. Or, je pense que c'est tout sauf ça, vraiment. Même si c'est satisfaisant dans l'expérience esthétique, c'est assez fascinant, ça a eu beaucoup de succès, mais je crois qu'il y a quelque chose de profondément dérangeant dans cette démarche.
Et que pensez-vous de la performance de Céleste Boursier-Mougenot, qui fait jouer de la guitare électrique à des oiseaux? C'est une installation qui consiste à disposer dans un grand espace des...
Présentée à la Biennale de Venise, oui. Ah bah...
Là, est-ce que c'est de l'extractivisme?
Ah, écoutez, face à l'extractivisme du monde actuel, je pense que c'est un petit extractivisme.
C'est vrai qu'il faut relativiser les échelles,
oui,
quand même.
Oui, il faut le relativiser. Mais bon, après, c'est une œuvre d'art. C'est dans un contexte de la Biennale de Venise que cette œuvre a été présentée. Et...
Alors, elle est parue sur le label Montagne Noire, oui. Sous forme de deux plages, et là, il y a une grande question philosophique. Il y a deux versions. Une version où on entend la musique produite par les oiseaux ainsi que les oiseaux, et puis une version, l'autre plage, où il n'y a que la guitare. Et l'éditeur me disait récemment, donc l'éditeur c'est le GMEA, le groupe de musique électroacoustique d'Albi, et Didier Chour donc me disait, on a la vraie musique des oiseaux quand on retire le son des oiseaux pour n'avoir que la guitare.
Ah, au contraire.
C'est étonnant. Ah oui, bah oui.
Je dirais plutôt le contraire. Enfin, Roberto,
Non, mais je ne connais pas, j'ai vu simplement, j'ai entendu cette œuvre.
Allez, vous préférez là maintenant écouter la version avec oiseau ou guitare solo?
Je ne peux pas dire, je n'ai pas écouté la version sans oiseau, donc je ne peux pas, me prononcer là-dessus, mais d'une façon conceptuelle, purement abstraite, je dirais que la question se pose d'un certain point de vue, mais d'un autre point de vue, la question ne se pose même pas. C'est-à-dire, il y a un artiste qui a travaillé, qui a utilisé des matériaux, qui les a exposés, qui donc, après, on évalue les résultats selon des critères qui sont différents. On peut l'évaluer du point de vue, par exemple, de l'exploitation des oiseaux. On peut l'évaluer du point de vue purement musical.
Monsieur, vous avez le concept de continuité ontologique,
oui.
qui articule trois notions, à la fois de présence, d'holisme et de non-séparation.
Oui.
Ce qui me donnait presque à parier que vous alliez préférer quand même la version où on entend aussi les oiseaux piaffer.
Non, je ne l'applique pas à ce niveau-là.
D'accord.
Enfin, peut-être vous avez raison, mais ce n'est pas à ce niveau-là que je pense cette question. La continuité ontologique, si vous voulez, c'est une question à la fois philosophique, mais aussi sensible. Mmh. Quand on écoute le monde, on est dans une relation au monde qui n'arrive pas à assigner au sens fort du terme, c'est-à-dire qui ne sépare pas. On est immergé dans un milieu... Et c'est aussi un milieu visuel, tout aussi visuel que sonore. Mais la vision assigne, la vision sépare. Alors que quand on écoute le monde, on est dans une sorte de sphère à 360 degrés dans laquelle on ne peut pas séparer les éléments entre eux. On peut les identifier, on peut se rendre compte qu'il y a, je ne sais pas, un signal, un fond et un signal. Mais on ne peut pas séparer les uns des autres d'une façon nette. Autrement dit, ce qui existe là, c'est de l'ordre sorte d'une continuité. Et donc j'en parle à ces niveaux-là. Après, du point de vue philosophique, c'est beaucoup plus complexe la question, mais dans une relation d'écoute au monde, il y a cette continuité et on l'expérimente. On peut vraiment l'expérimenter. De là vient cette idée que l'écoute peut être quelque chose de plus riche que le regard. Dans certains cas de figure, et je ne veux pas séparer, je prends l'écoute comme une dimension polysensorielle, d'emblée.
Ça semble conduire vers une préférence pour la version pour guitare et oiseau, non?
Faire ma prof de philo qui demande une analyse du sujet, mais au fond, enfin, quand on dit musique des oiseaux, c'est quoi le dé? C'est quel sens du génitif? Est-ce que c'est la musique produite par les oiseaux ou est-ce que c'est leur musique qu'ils entendent comme telle? Au sens où je dirais que dans la première version, celle où on entend les oiseaux, c'est ce que les oiseaux entendent. Donc, bon, je ne sais pas si on irait parler de musique, parce que je pense que là, il y a une projection
et
qui
aussi
est problématique.
Qu'ils répondent à ce qu'ils entendent.
Et ce qu'ils répondent à ce qu'ils entendent. On est dans la sonosphère des oiseaux. Si vous voulez projeter du musical là-dedans, avec cette idée d'un continuum musical, pourquoi pas. Mais c'est la musique dont les oiseaux sont acteurs, puisque c'est ce qu'ils entendent. Dans la deuxième, ils n'ont pas accès à cette production sonore. C'est nous qui l'entendons et qui projetons aussi notre propre imaginaire musical sur cette production. C'est la musique peut-être produite par des oiseaux, mais elle ne leur appartient plus. Et elle est aussi déterminée par notre propre culture musicale. Moi, j'y entends une sorte de, on dirait un peu Endless Summer de Fénès en un peu plus pété. certaines pistes un peu barrées de Matmos. Et j'ai cet imaginaire-là qui vient faire que j'y trouve un certain plaisir esthétique. Mais c'est plus la musique des oiseaux au premier sens du terme.
Donc ça voudrait dire qu'il faudrait maintenir un son à l'état indiciel, comme dirait Schaeffer, pour pouvoir laisser l'imagination ouverte, comme ne dirait pas Schaeffer. Pierre, c'est Schaeffer cette fois.
Ah, c'est une vaste...
Je passe.
D'accord.
Non, mais cette question de l'indice, c'est deux traditions différentes, en fait. Le problème, c'est que il y a l'idée que l'enregistrement et l'écoute enregistrée, elle permet d'avoir accès au son détaché de sa source.
Oui, parce
c'est l'idée de Pierre Schaeffer. C'est l'idée de Pierre Schaeffer, d'acousmatique, et puis après, sur l'idée de l'acousmatique, d'avoir un type d'écoute qu'il appelle l'écoute réduite, et qui est très sélective, et qui vise à vraiment mettre en parenthèse.
Dans la deuxième version.
On continue de trouver un plaisir dans le fait que c'est produit par des oiseaux, donc c'est pas totalement réduit. On retire pas le contexte, et je pense qu'une partie de l'appréciation esthétique est liée à ce petit chatouillement, encore une fois, de dire « Ah, mais c'est produit par des oiseaux.
Ouais. »
Et je trouve qu'il y a une forme de naïveté aussi de faire reposer aussi une grande partie de l'appréciation esthétique sur cette petite excitation naturaliste. La question de la source, elle me semble cependant encore déterminante. Et c'est tout ce que l'acoustémologie, mais aussi tout le travail de l'audionaturalisme, de l'écologie acoustique nous apprend, c'est que on ne peut pas solder totalement la question de la source des sons. D'ailleurs, Schaeffer lui-même ne la solde pas toujours totalement. Pierre Schaeffer, Schaeffer. Mais c'est juste deux traditions différentes. Il y a une tradition qui est celle de la concrète. Quelqu'un qui serait très représentatif de ces deux traditions différentes et de leur opposition, c'est Francisco López, qui est à la fois quelqu'un qui fait du field recording, mais qui se réclame totalement de la musique concrète et qui refuse le naturalisme sonore.
Et qui veut dire que c'est de la
musique. En disant, il y en a marre de toujours dire c'est des sources, c'est tel son, c'est tel objet, c'est telle espèce.
Tout à fait. Mais je veux dire, on est en face des œuvres. Et l'œuvre, en quelque sorte, c'est une sorte d'expérimentation. Donc, là, pour l'instant, les extraits que vous avez passés, je ne veux pas me prononcer là-dessus, mais il y a deux formes d'expérimentation de cette relation. Quand on parle d'œuvre d'art, on parle d'une forme d'esthétique intentionnelle, et dans la forme d'esthétique intentionnelle, il y a la question de l'expérimentation. Donc, on essaye de pistes de recherche, on essaye des relations, et évidemment, sauf certains cas de figure dans lesquels l'expérimentation va au-delà des limites, éthiques, où on ne peut pas faire, l'enregistrement d'animaux que nous sommes en train de torturer, vous voyez, c'est-à-dire ce genre de choses. Mais l'expérimentation en tant que telle, c'est difficile de dire, après, oui, on peut en extraire des intentions, mais dans les deux cas de figure, d'après ce que j'ai entendu, les deux propositions me semblent peut-être intéressante ou pas intéressante. Mmh. Je veux pas me prononcer là-dessus, oui, d'une façon.
Mais oui, c'est tout le problème aussi de Molécules, par exemple, qui va prendre des craquements de glaciers au Groenland pour les fondre dans son home studio qu'il place, oui, dans un village d'Inuit, mmh, dans une musique techno qui va ensuite. Oui. Oui. Enfin voilà. Jouer dans des endroits très énergivores.
On peut pas empêcher de faire ce genre de. Travail.
Merci beaucoup Roberto Barbanti, je rappelle que vous êtes l'auteur des Sonorités du Monde auprès du réel, et merci Pauline Adrunier.
Merci.
Vous êtes l'autrice de Sonder le Monde aux éditions MF, et merci à la Bibliothèque publique d'information d'avoir accueilli l'enregistrement de ce métaclassique.